Bonjour Céline Schmitt.
Bonjour.
Et avec en effet cette actualité brûlante autour des réfugiés, il faut peut-être commencer par mettre les choses au clair en faisant cette distinction entre réfugiés et migrants. Le statut de réfugié correspond à une définition précise qui répond à une convention internationale, tandis que le statut de migrant, lui, est beaucoup plus flou.
Oui, un réfugié est une personne qui fuit une persécution, qui fuit des violences, qui fuit la guerre. Effectivement, c'est un statut qui est défini dans la Convention de Genève de 1951. Le mot migrant est utilisé de façon plus générale pour parler de gens qui bougent, qui quittent leur pays, parfois pour des raisons économiques ou pour des raisons familiales. Il est important en fait de toujours bien garder en tête en fait qui est un réfugié, puisque c'est des personnes qui fuient la violence, qui fuient la persécution, qui ont besoin d'une protection internationale et donc qui ne doivent pas être retournées dans leur pays.
Combien de réfugiés dans le monde aujourd'hui, au sens justement de ce statut officiel ?
Alors, il y a plus de 25 millions de réfugiés dans le monde aujourd'hui, près de 3 millions de plus que l'année dernière.
Et les pays européens sont, on le voit bien, empêtrés dans la gestion des flux migratoires, mais il convient peut-être de rappeler que les pays du Sud, eux-mêmes, sont aux premières loges et sont confrontés à ce même problème, et même peut-être, au fond, encore plus.
Oui, tout à fait. 85% des réfugiés se trouvent dans les pays voisins, directement des pays qu'ils ont fui, se trouvent dans des pays qui sont souvent eux-mêmes en voie de développement, des pays qui font face à des problèmes de pauvreté. Et c'est là que se trouve la majorité des réfugiés, accueillis par des populations qui elles-mêmes en fait font souvent face en fait à des défis, avoir accès à des services de base, que ce soit l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, mais qui sont généreux et qui accueillent les réfugiés qui arrivent. On peut parler de l'Ouganda, par exemple, qui a gardé ses frontières ouvertes pour les réfugiés du Soudan du Sud, pour les réfugiés de la RDC. Encore des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés sont arrivés en Ouganda l'année dernière.
Alors si on voulait schématiser, on pourrait dire qu'il y a aujourd'hui deux attitudes parfaitement opposées à l'égard des réfugiés. Celle de l'Allemagne qui en a accueilli environ 1 million au cours de ces 3 dernières années, et celle de l'Australie qui s'emploie, elle, méthodiquement à refouler tout bateau qui approche ses côtes. L'Australie est régulièrement critiquée, y compris par les Nations Unies, pour cette politique extrêmement dure. L'Allemagne, elle, paye les conséquences politiques avec une très forte montée de l'extrême droite. Comment trouver l'attitude intelligente, le juste milieu entre ces extrêmes ?
Alors, ce qu'il faut aujourd'hui, en fait, c'est avoir une réponse globale. Et c'est dans ce sens qu'on travaille sur un pacte mondial pour les réfugiés. C'est en fait, on travaille depuis 2 ans sur ce pacte. C'est une décision qui a été prise il y a 2 ans lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, où les États membres des Nations Unies se sont réengagés pour la protection internationale, ont décidé qu'effectivement il fallait un système plus global pour répondre aux déplacements, pour trouver des solutions. Et ce pacte global, en fait, inclut les différents acteurs qui peuvent apporter leur contribution, donc les autorités nationales, les autorités locales, mais aussi le secteur privé, la société civile, travailler ensemble pour trouver des solutions. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Je peux vous donner l'exemple, je parlais tout à l'heure de l'Ouganda, mais l'Ouganda fait partie des pays pilotes pour ce pacte mondial. En Ouganda, quand les réfugiés arrivent, ils ont accès très vite à un lopin de terre. Ils peuvent construire leur maison. Ils sont dans des sites d'installation qui sont des villages. Ils vivent avec la population. Et l'aide aux réfugiés est inscrite dans l'aide au développement pour l'Ouganda. Et donc l'aide qui arrive aussi pour les réfugiés bénéficie aussi à la population locale, qui aussi a besoin d'aide dans des zones où souvent ils peuvent être dépourvus de l'accès aux services de base. Les enfants vont à l'école ensemble. L'accès aux soins de santé se fait dans les mêmes centres. Donc c'est cette approche globale aujourd'hui qui est nécessaire.
Ouais, on voit bien qu'il y a dans de nombreux pays de l'Union européenne une forte hostilité de l'opinion publique, les sondages le disent, à accueillir de nouveaux réfugiés, la peur d'une perte d'identité, la peur de l'islamisme, voire de l'islam, la peur du communautarisme. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui aujourd'hui sont dans cette attitude, qui ne veulent pas que l'on ouvre nos frontières ?
Alors d'abord, je pense qu'il est extrêmement important d'écouter les gens, d'écouter justement les peurs pour pouvoir comprendre, pour pouvoir y apporter des réponses. Et ce qu'on a vu, en fait, et qu'on voit aussi dans des petits villages en France, c'est que même dans des villages où il peut y avoir de la peur à l'idée, en fait, que des réfugiés puissent arriver, avec parfois des réactions qui peuvent être même assez violentes, quand les réfugiés arrivent, quand une rencontre est créée, bah finalement ça se passe bien. Et je me souviens en fait dans un petit village alsacien où j'ai été dernièrement, de personnes qui avaient peur parce que des réfugiés arrivaient dans un centre d'accueil qui venait d'être créé pour des réfugiés qui avaient été évacués de Libye et qui en fait le premier jour se sont dit mais on va aller à leur rencontre parce que ce sont nos nouveaux voisins. Et donc ils sont allés à leur rencontre et ils se sont rendus compte que c'est des personnes qui n'attendaient qu'une chose, c'est être en paix, vivre en sécurité. Et donc ils ont voulu s'engager. Et donc ça a changé. Et quand les réfugiés sont partis, parce qu'ils restaient que pour un certain temps, en fait, c'était un centre de premier accueil, ils nous ont dit mais ils partent trop tôt. On a fait connaissance. Pourquoi les enfants restent pas ici, ne vont pas à l'école avec avec les enfants dans notre village? Donc c'est cette rencontre aussi qui est importante. Trouver des opportunités en fait de créer cette rencontre.
Et on a vu des cas similaires en Corse ou même dans le 16e arrondissement de Paris avec des images que certains ont peut-être vues qui sont restées assez célèbres. On a beaucoup parlé de l'Aquarius ces derniers jours. Certains pensent que ces bateaux encouragent les candidats au départ. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il y a une chose fondamentale qu'il ne faut pas oublier. L'Aquarius sauve des vies. Et c'est extrêmement important. Et ce principe, en fait, de sauvetage en mer, qui est une obligation internationale, doit rester. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut sauver des vies. Il faut continuer à sauver des vies. Il faut trouver des solutions au niveau européen. Un mécanisme prévisible en matière de débarquement, qu'effectivement, c'est pas un seul pays qui peut prendre toute la responsabilité, qu'il faut qu'il y ait un partage au niveau des pays européens, une relocalisation, comme cela avait été fait déjà, même si ça a été très lent et finalement, il y a qu'un petit nombre de réfugiés qui avaient été relocalisés de Grèce et d'Italie. Mais pour nous, c'est ça la solution, que ce soit géré et qu'il y ait un mécanisme en fait, de partage de responsabilités en Europe. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire aussi, ce qui est important, c'est que les États européens s'engagent aussi pour proposer plus de voies légales aux réfugiés. Et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure en parlant de l'évacuation des réfugiés de Libye vers le Niger, qui a ouvert un centre de transit humanitaire. Et il est important que les États européens continuent à réinstaller des réfugiés.
On n'a pas tous les jours l'occasion de se tresser des lauriers à soi-même, donc on ne va pas se priver de souligner ce que fait RFI dans les camps de réfugiés en Afrique à travers les clubs RFI. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous, ces clubs ?
Alors oui, je connais les clubs RFI, ouais, puisque j'ai été en RDC. Et à l'époque, on a, avec RFI, ouvert ensemble le premier club RFI dans le camp de réfugiés de Molé. Et en fait, je trouve que c'est un formidable moyen aussi de répondre aux attentes de la jeunesse. Et notamment, dans ce camp, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient de Bangui, qui avaient dû abandonner leurs études et qui retrouvaient dans ces clubs RFI aussi cette possibilité, en fait, de pouvoir continuer à se développer, à se former, à penser à leur avenir.
C'est une façon d'introduire ou de ramener de l'humanité dans des lieux qui en sont malheureusement quand même assez dépourvus.
Oui, c'est un moyen justement de pouvoir travailler avec les jeunes pour pouvoir leur permettre en fait de continuer à se développer, à penser à leur avenir.
Oui, il y a aussi le site infomigrant.net qui est un service d'information et d'aide à ceux qui sont aujourd'hui démunis sur les routes, parfois un peu perdus, on peut le comprendre. Et on va donc adresser ce matin un salut particulier aux auditeurs des clubs RFI dans les camps de réfugiés. Vous en avez parlé de Molé et Lucenda en République démocratique du Congo, de Ngam et Borkop au Cameroun, de Nyarugusu en Tanzanie et de Nakivale en Ouganda. Merci Céline Schmitt et bonne journée.
Merci.